Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos avec vous et avec toute la rédaction. Ce soir à la une, Yannick Jadot sera le candidat écolo à la présidentielle. Il vient de gagner la primaire avec 51% des voix contre 49% pour Sandrine Rousseau. Victoire étriquée d'un vert pragmatique face à une verte radicale. Ce sera évidemment notre fil rouge, vert dans l'émission. Mais à la une également, un témoignage RTL. Demain, hommage national aux Invalides à Maxime Blasco, ce militaire tué au combat la semaine passée au Sahel. Un décès qui suscite une vive émotion. Et pour cause, ce caporal-chef était un héros. En 2019, dans le désert, il avait sauvé 2 frères d'armes après le crash d'un hélicoptère, avant de fuir la scène de guerre en s'accrochant à la force de ses bras à un autre appareil. Ce soir, document RTL, le pilote qui a évacué ce jour-là, Maxime Blasco, s'est confié à notre rédaction.
L'image que j'ai de lui, c'est une image de force, de courage, d'humilité. Parce qu'il n'a jamais lâché. Et c'est grâce à lui, et à son courage, on a pu les ramener tous les trois à la maison. C'est lui qui a fait que cette mission impossible est devenue possible.
Document RTL à écouter en longueur dans un instant. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Les premiers témoignages des parties civiles au procès des attentats du 13 novembre. Premier à s'exprimer, des gendarmes encore sous le choc après l'explosion des kamikazes du Stade de France. Dans ce journal aussi, confirmation de cette information qu'RTL vous révélait ce matin, la consultation de psychologue sur prescription sera remboursée dès l'âge de 3 ans à partir de l'an prochain. Et puis pour l'emporter, il faudra savoir battre ce genre d'équipe. Un match à valeur de test ce soir pour le PSG en Ligue des Champions contre Manchester City. Dans les courses, à Compiègne, le Quintet Plus, il fallait jouer le 2, le 8, le 5, le 11, hélas.
À suivre aussi dans cette émission, laissez-vous tenter dernière dans une demi-heure environ, avant-première mondiale du nouveau James Bond. Ce soir, le film est resté 2 ans dans un coffre-fort, secret total, autour de 007. À 18h40, on défait le monde, vos 20 minutes d'actu, avec un autre regard, celui de Cyprien Sini et la fine équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le programme.
Ce soir, on défait PSG Manchester City, mais sur le terrain de la diplomatie, le club du Qatar contre celui des Émirats. Vous découvrirez qui mène au score dans le concert des nations. Et puis au menu également, une Ségolène Royal en colère et des douches solidaires.
À 19h15, du débat autour des Verts, notamment dans On refait le monde avec Éric Brunet. Et puis tout au long de l'émission, vos points météo. Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance.
Un temps pluvieux demain du sud-ouest au nord-est et de part et d'autre du soleil.
Le détail à la fin du journal.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et donc, fin du suspense, c'est Yannick Jadot qui va représenter les écologistes à la présidentielle.
Et on va retrouver à Pantin, près de Paris, où les résultats ont été proclamés il y a une demi-heure. Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. L'eurodéputé, ancien patron de Greenpeace France, a donc obtenu un peu plus de 51% des voix, Marie-Bénédicte.
Oui, c'est une victoire à l'arraché, mais une victoire tout de même pour Yannick Jadot, qui n'était sûr de rien après le premier tour. Et sur la péniche où se sont rassemblés ses partisans, on a poussé des cri de joie avant que le candidat dise quelques mots. Un pour cent d'écart seulement. Les sympathisants des autres candidats du premier tour se sont donc presque équitablement répartis entre les finalistes Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Dans son camp, les visages se sont figés à l'annonce du résultat, mais ses soutiens lui ont quand même réservé un bon accueil. Sandrine Rousseau vient de s'exprimer. Elle a félicité Yannick Jadot. Nous mènerons cette campagne ensemble, vient-elle de dire. Le candidat, lui, va s'exprimer à sa suite. Ce sera sa première déclaration de candidat à la présidentielle. Il vient de gagner une manche. L'investiture des écologistes, le plus dur, commence pour lui.
Marie-Bénédicte Allaire à Pantin pour RTL. Merci. Oui,
et on précise que Sandrine Rousseau précise, hein, elle, que la campagne présidentielle ne pourra plus être la même après cette campagne des primaires. Ambiance à venir sans doute chez les Verts. 18h. 7h04 dans RTL Soir à présent. Comme promis, ce récit exceptionnel d'un sauvetage et même d'un acte de bravoure qui permet d'esquisser encore un peu mieux le portrait du caporal-chef Maxime Blasco, tombé vendredi dernier au Sahel.
Et à qui un hommage national sera rendu demain aux Invalides. Ce récit exceptionnel, c'est celui d'un de ses camarades que vous avez rencontré pour RTL. Brice Dugénie, bonsoir.
Bonsoir.
Il vous a raconté cette nuit de juin 2019 au cours de laquelle Maxime Blasco est devenu un héros.
Oui, alors que les terroristes viennent d'abattre l'hélicoptère dans lequel Maxime Blasco se trouve, que l'appareil est en flammes sous le feu de l'ennemi, le caporal-chef Blasco extrait alors les deux pilotes de la carcasse fumante. Puis il va les traîner dans le sable alors qu'ils souffrent de plusieurs fractures jusqu'à ce deuxième hélico qui a pris le risque de se poser pour venir les secourir. Il accroche d'abord avec des sangles son premier camarade à l'extérieur de l'appareil sur le train d'atterrissage, le deuxième de l'autre côté. Il n'y a pas de place à l'intérieur du Tigre. Puis il va se suspendre à la force des bras sous l'hélicoptère qui redécolle. Bilan, aucun mort. Aux manettes de ce second hélicoptère se trouve le capitaine Paco. C'est lui qui a pris la décision de venir chercher Maxime et tout l'équipage. La première question que je lui ai posée, c'est quel souvenir garde-t-il de Maxime Blasco dans cet enfer ?
L'image que j'ai de lui, c'est une image de force, de courage, et ensuite, quand j'aurai l'occasion de discuter avec lui, d'humilité. De force, parce que je vois clairement qu'il est blessé, tout comme c'est deux camarades, mais ça ne m'empêche pas de les sortir et d'être debout et d'arriver à les traîner jusqu'à mon hélicoptère et ensuite à réussir à les arrimer. De courage, parce qu'il n'a jamais lâché. Pour lui, la mission était possible. Et le lendemain, quand j'ai pu discuter avec lui à l'hôpital, d'humilité. Vraiment, j'ai eu cette sensation que, du moins, qu'on ne se considérait pas comme un héros. Et c'est vraiment grâce à lui et à son courage que ça s'est bien passé, qu'on a pu les ramener tous les trois à la maison. C'est lui qui a fait que cette mission impossible est devenue possible.
Après cette opération, Maxime Blasco a mis du temps à se remettre, même physiquement, et finalement il a décidé d'y retourner. Comment vous expliquez cela ?
Je pense que c'est vraiment là le vrai courage, quoi. Le courage, c'est pas de faire face une fois à une situation imprévue, c'est d'y avoir fait face, de savoir ce que c'est, et en conscience de se remettre, d'avoir la potentialité de se remettre dans cette situation. C'est vraiment ça le courage, et je pense qu'il faut vraiment retenir ça de Maxime. Et même s'il lui arrivait des situations extrêmement compliquées, il y est retourné. C'est du moins c'est un acte de bravoure extrême. On a l'impression comme ça que c'est une paille pas de mine, mais en fait c'est quelqu'un d'incroyable. Il ne se décrivait pas comme un héros, mais il a toutes les caractéristiques.
Vous qui aviez combattu à ses côtés, à quoi vous avez pensé quand vous avez appris sa mort ?
Sur le moment, c'est bon, on est dans une profonde tristesse et surtout, on se dit que le sort s'acharne sur certaines personnes. Mais après ça, on essaye de penser au bon moment et surtout à ce qu'il a fait pour nous, quoi.
Après cette opération, après ce sauvetage, je crois que d'ailleurs, vous ne vous êtes jamais revu.
C'est ça qui est un peu, on va dire, bizarre. Et c'est un peu le fait de notre métier. On n'a pas eu l'occasion de se recroiser. C'est vraiment un gros regret de ma part. On est tout le temps pris par la mission et on regrette toujours de ne pas avoir pris le temps d'aller vers les personnes avec qui on a réalisé des choses et on regrette toujours de ne pas avoir pris ce temps de se déplacer. Et aujourd'hui, c'est un gros regret de ma part de ne pas avoir pu le remercier face à face de ce qu'il a fait.
Qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire, Maxime Blasco ?
Que je le remercie. Aujourd'hui de pouvoir me regarder dans une glace et de pouvoir dire on a réussi à les sauver tous les trois. Et surtout, mon immense fierté, parce qu'en plus de réaliser ça, d'être blessé en opération, il est retourné pour ses camarades. Et c'est ça dont, du moins, c'est une immense fierté vis-à-vis de lui. Donc je pense que je lui aurais dit ça.
Voilà, témoignage RTL, témoignage exceptionnel du capitaine Paco, recueilli par Brice Dugénie, et témoignage que vous pouvez retrouver en longueur sur notre site internet et l'appli RTL.
Le nouveau plaidoyer d'Emmanuel Macron pour la concrétisation d'une Europe de la défense. Ce matin, le chef de l'État a appelé Bruxelles à sortir de la naïveté au moment où, dit-il, les États-Unis se concentrent sur eux-mêmes. Et au passage, après l'épisode des sous-marins, il a annoncé la commande par la Grèce de 3 frégates qui seront construites par Naval Group à Lorient.
Après cet appel, on s'intéresse. Est-ce que l'Europe de la défense est possible, nécessaire ? Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, sera notre invité juste après ce journal. Journal qui se poursuit dans un instant avec les premiers témoignages des parties civiles au procès des attentats du 13 novembre. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Et la suite de votre journal, donc à 18h11 sur RTL avec cette nouvelle phase du procès des attentats du 13 novembre qui s'est ouverte aujourd'hui. Et qui verra, pendant 5 semaines, des rescapés, des proches de victimes se succéder à la barre.
Cindy Hubert, vous suivez ce procès pour RTL et ce sont des gardes républicains en mission au Stade de France ce soir-là qui se sont les premiers exprimés.
L'adjudant Renaud enlève son képi et rassemble ses souvenirs. Première explosion, deuxième explosion. J'ai l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Mes collègues ont les habits pleins de sang, des bouts de chair dans les cheveux. Dans les mois qui suivent, l'adjudant voit des kamikazes partout. J'étais dans l'hypervigilance. Aucun de ces gendarmes n'a pris d'arrêt maladie. Tous se sont sentis totalement abandonnés par leur hiérarchie. Personne ne voulait voir qu'on était mal. À la maison, c'était compliqué. C'est ça la terreur, murmure Pierre, qui a quitté depuis la garde républicaine. Elle a détruit nos familles aussi. Lui a eu le double malheur d'être aussi sur les Champs-Élysées quand un autre terroriste a abattu un policier en 2017. Aujourd'hui, il enchaîne les séjours en psychiatrie. Nous sommes des gendarmes, des gens aguerris à l'adversité, conclut Jonathan, son capitaine. Quand je vois dans quel état nous sommes, je ne peut qu'imaginer les souffrances des civils, des rescapés. Le gendarme se mord les lèvres pour ne pas pleurer, mais cela ne fonctionne pas. Il fait un salut militaire en larmes et tourne les talons.
Cindy Hubert à la cour d'assises spéciale de Paris pour RTL. Il est soupçonné d'avoir jeté un œuf hier sur Emmanuel Macron à Lyon. Le suspect âgé de 19 ans a été hospitalisé sous contrainte en établissement psychiatrique. Un examen a conclu à l'abolition de son discernement. La santé mentale et ses assises concluent cet après-midi par le chef de l'État.
Bonsoir Odile Pouget.
Bonsoir.
Comme RTL le révélait ce matin, donc les séances prescrites chez le psychologue seront donc remboursées. Dans le détail, ça va fonctionner comment ?
Eh bien, ce sera sur prescription du médecin traitant. Cela concernera toute la population dès l'âge de 3 ans. Consultation prise en charge donc par l'assurance maladie, facturée 40 € pour la première, 30 € pour les suivantes. Ce forfait pourra être renouvelé. Attention pour les psychologues qui veulent rentrer dans ce parcours de soins. Il faudra qu'ils pratiquent des tarifs très raisonnables. Le dispositif entrera en vigueur en 2022.
Les professionnels de la psychiatrie demandaient des moyens à l'image d'Antoine Pellissolo hier dans RTL Soir. Ils en ont eu ?
Alors des moyens, il va y en avoir pour les centres médicaux psychologiques. Création annoncée de 800 postes dès l'an prochain. Cela va concerner un quart des 1800 CMP pour lesquels les délais d'attente peuvent parfois atteindre 18 mois. En revanche, pour l'hôpital, le président de la République a certes évoqué revalorisation de salaire, grille de carrière, mais il est resté extrêmement flou sur les ouvertures de postes dont a cruellement besoin le secteur de la psychiatrie dans toutes les disciplines.
En précision signée Odile Pouget, merci. Ajoutons qu'une détection systématique de la dépression postpartum a aussi été annoncée autour de la 5e semaine après l'accouchement. Dépression qui toucherait aujourd'hui 15 à 30% des mères.
Rendez-vous est pris 21h ce soir au Parc des Princes. Le match des ambitieux, le PSG face à Manchester City en phase de poule de la Ligue des Champions.
Deux clubs qui visent un premier trophée et qui s'en donnent les moyens. Vous êtes déjà au parc pour RTL, Philippe Sanfourche. Du coup, sur le terrain, on aura ce soir ce qui se fait de mieux en Europe.
Oui, c'est le choc du nouveau monde. Hein. Deux clubs aux actionnaires État, moyens illimités, ambitions démesurées, tour à tour finalistes des deux dernières éditions. Chacun veut grimper désormais sur le trône de champion d'Europe. Et si le duel de ce soir ne revêt pas encore de caractère décisif, il a valeur de test. L'an passé, les Citizens avaient éliminé le PSG en demi-finale. Ander Herrera était sur la pelouse pour Paris. Il sait ce qu'il faut corriger.
On doit être plus efficace que la dernière saison. Et je pense qu'on a eu beaucoup de chances contre eux. Les premières 60 minutes ici, on a joué très très bien, on a marqué qu'un but. Ça, c'est l'exemple qu'on doit prendre, parce que contre une équipe comme Man City, quand tu as des occasions, on doit tuer.
Et pour tuer tout suspense, Paris a théoriquement recruté l'arme absolue. Lionel Messi, attendu au coup d'envoi après 10 jours de repos pour soigner une contusion au genou. Et ça tombe bien, car si Paris n'a jamais réussi à battre Manchester City, lui, en a fait sa proie favorite. 5 victoires en 6 matchs, 6 buts à son compteur personnel. Série en cours.
Philippe Sanfourche, on vous retrouvera ce soir dès 20h45 sur RTL pour suivre ce PSG Manchester City.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Pour l'artiste française Aya Nakamura. Eh oui, parce qu'après Neymar, après Ariana Grande, elle va devenir la première artiste française à s'inviter dans le jeu vidéo aux quelques 350 millions de joueurs à travers le monde. Ce sera mieux qu'un concert, une très belle affiche, à savoir Fortnite.
Ah oui.
Elle y présentera prochainement une expérience interactive.
Forfait, ça me dépasse complètement.
Totalement.
On est trop vieux pour ça, Marion. Mais on n'est pas trop vieux pour écouter Aya Nakamura. Merci beaucoup, Marion. Peggy, vous voulez garder Aya Nakamura pour la météo ou pas?
Si vous voulez.
Allez, c'est pas mal, on fait comme ça. On innove sur RTL.
Ah oui,
racontez-nous à quoi ça ressemble demain.
Demain, on a la perturbation en fait, qui est actuellement sur la Bretagne qui va s'enfoncer dans le pays. Demain matin, elle sera entre l'Aquitaine et le Nord-Est. Le temps sera pluvieux. Les éclaircies seront de retour sur le Nord-Ouest, du coup, avec quelques gouttes possibles sur les côtes de la Manche. Du beau temps également entre la Méditerranée et l'Alsace. Et dans l'après-midi, cette perturbation, elle va se morceler, se décaler vers l'est. Le ciel sera chargé avec juste quelques averses éparses entre les Pyrénées et la façade est. La Méditerranée conservera du beau temps avec un ciel voilé et du vent. Et puis les éclaircies vont gagner une bonne partie nord et la façade atlantique, même si c'est vrai, une petite ondée ne sera pas à exclure au nord de la Seine. Les températures, elles vont baisser. 15 degrés demain à Lille, 16 à Brest et Nancy, 17 à Paris, 20 à Lyon, Agen et Auch, 25 à Montpellier, 26 à Toulon.
Merci Peggy.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
Julien Cellier, RTL Soir.
Allez, 18h16, vous écoutez RTL et nous souhaitions maintenant nous arrêter sur cette annonce de la matinée. La France va réduire de moitié les visas pour les Algériens, les Marocains, les Tunisiens qui veulent venir dans notre pays. RTL s'est donc demandé si c'était un coup d'arrêt net et pourquoi une telle décision du gouvernement. Nous allons donc poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir Thomas Proutot.
Bonsoir.
Déjà, comment Paris justifie cette mesure?
Alors, avec un chiffre que le gouvernement martèle depuis ce matin, seulement 22 expulsions d'Algériens en situation irrégulière depuis le 1er janvier 2001. En 2019, avant le Covid, c'était plus de 1600. La raison, selon le ministère de l'Intérieur, Alger ne délivre presque plus de laissez-passer consulaires, un document souvent incontournable pour expulser un étranger sans papier. Idem, dans une moindre proportion, pour le Maroc et la Tunisie, accusés de traîner les pieds volontairement, d'où cette mesure de rétorsion spectaculaire sur les visas.
Thomas, dites-nous, ce quasi-arrêt des expulsions, est-ce qu'il n'est pas aussi lié à la crise sanitaire?
Absolument, la crise sanitaire a quasiment gelé les retours d'étrangers irréguliers. Les frontières algériennes étaient d'ailleurs fermées jusqu'au 1er juin dernier. La crainte d'une diffusion des variants a beaucoup joué. Bref, impossible de distinguer dans les chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur entre les effets du Covid et une réelle mauvaise volonté des pays du Maghreb. On peut aussi souligner que jusqu'en 2019, y compris, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc faisaient plutôt partie des bons élèves en la matière. Un conseiller ministériel se défend pourtant de tout coup de com' sur fond de polémique sur l'immigration.
Quelles conséquences là-bas au Maghreb? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de Marocains, d'Algériens, de Tunisiens qui viennent en France aujourd'hui?
Non, moins de 40 000 depuis le début de l'année, contre plusieurs centaines de milliers en temps normal, hors pandémie bien sûr. On ne parle ici que des visas touristiques et des courts séjours. Les visas familiaux ou professionnels ne sont pas concernés par la mesure de rétorsion. Alors, ces voyageurs parfaitement légaux vont avoir encore plus de mal à venir, sauf bien sûr s'ils sollicitent un visa de tourisme dans un autre pays de la zone Schengen qui leur permettra aussi de voyager en France.
Les explications de Thomas Proutot pour la brigade RTL. Une pause et dans un instant, face aux Américains, l'appel d'Emmanuel Macron pour une Europe de la défense. Après le camouflet des sous-marins, le président secoue les 27 et signe un partenariat militaire avec la Grèce. Clément Beaune, secrétaire d'État, sera notre invité juste après ça, tout de suite sur RTL.
RTL Soir
avec Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h22, bonne fin de journée à l'écoute de RTL et nous allons maintenant nous arrêter sur l'appel aujourd'hui d'Emmanuel Macron, appel à une Europe de la défense. Écoutez.
Les Européens doivent sortir de la naïveté. Nous sommes obligés de constater que depuis maintenant un peu plus de 10 ans, les États-Unis d'Amérique se concentrent beaucoup sur eux-mêmes. Nous devons, en tant qu'Européens, prendre notre part dans notre propre protection. Je pense que c'est légitime. C'est donc à nous de le faire.
Et justement, le président a officialisé ce matin un contrat au parfum de revanche. Après le fiasco de la vente de sous-marins aux Australiens, la Grèce a acheté 3 frégates à Paris, en plus des rafales déjà commandées. Bonsoir Clément Beaune.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire d'État aux Affaires européennes. Pour la première fois ce matin, Emmanuel Macron a publiquement parlé de cette crise des sous-marins. Ce partenariat avec la Grèce, est-ce que c'est la preuve qu'une Europe de la défense est possible? Parce qu'aujourd'hui, le budget des 27 pour la défense, c'est 1 milliard par an. À titre de comparaison, le budget défense français, c'est 40 milliards par an. Celui des États-Unis, 10 fois plus. Donc, il y a encore du boulot.
Oui, il y a encore du boulot, mais c'est quand même une étape très positive. Je parle de ce contrat avec la Grèce. Et ce n'est pas simplement un contrat de 3 frégates avec une 4e en option. Ça s'inscrit dans une continuité. La Grèce a acheté aussi 24 avions de combat français. Et puis, c'est un partenariat stratégique en matière de sécurité et de défense qui a été conclu entre la France et la Grèce ce matin, qui est le fruit de négociations depuis de longs mois. pas seulement liée évidemment à la crise récente. Et puis c'est une étape de plus sur le chemin d'une Europe de la sécurité et de la défense. Vous avez raison, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a 4 ans, c'était un tabou absolu de faire quoi que ce soit en matière d'Europe de la défense. On voit aujourd'hui que nous avons, en matière de budget, un premier budget commun. Il faut rajouter en plus l'effort de défense qui augmente dans beaucoup de pays au niveau national, dont l'Allemagne et dont la France, évidemment. Mais c'est 1 milliard par an qui vont permettre de financer des projets communs de recherche et de capacité. Nous avons aussi lancé, avec l'Allemagne, pour la première fois, des projets industriels de défense sur le char du futur, l'avion du futur, c'est-à-dire les grands matériels d'avenir, qui sont un choix stratégique et qui paraissaient sans doute aussi impossibles il y a quelques années du côté allemand. On a fait des étapes. Je crois que les Européens ont compris depuis quelques années, et cela s'accélère, que devaient compter sur leurs propres forces en complément de d'autres alliances et de l'alliance avec les Américains qui demeurent.
Alors, l'Europe de la défense, c'est aussi se protéger les uns les autres. Avec la Grèce, il y a notamment un accord de défense mutuelle. Soyons concrets, qu'est-ce que ça signifie? Si les Turcs de nouveau font parader leurs navires en Méditerranée pour défier Athènes, on envoie nous aussi nos bateaux?
Alors ça, il n'y a pas d'automaticité, ça ne marche pas comme ça les accords de coopération et de défense, mais avant même d'ailleurs ce partenariat qui formalise un certain nombre de contacts, partage d'informations, exercices communs, quand la Grèce a été menacée, et Chypre aussi, il y a quelques mois, par des navires turcs, nous avons fait des exercices navals. Il ne s'agit pas d'être dans une provocation, dans une surenchère, le président de la République l'a précisé ce matin, ce n'est pas un accord contre quelqu'un, un partenaire, la Turquie ou d'autres, c'est un accord pour se protéger au niveau européen et en Méditerranée, qui est une autre zone stratégique. On a beaucoup parlé ces derniers temps de l'Indo-Pacifique. La Méditerranée reste évidemment une zone de sécurité stratégique. On ne va pas remettre notre sécurité en Méditerranée seulement à d'autres. On renforce nos capacités, on renforce nos coopérations.
Quelle place de l'Europe de la défense au Sahel? Vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure à 18h sur RTL, on a obtenu le témoignage très fort d'un frère d'armes de Maxime Blasco, ce soldat tué la semaine passée au Sahel. Là-bas, l'Europe de la défense est déjà concrète parce qu'il y a une force européenne, Takuba, des forces spéciales qui déjà épaulent nos soldats de Barkhane qui seront de moins en moins nombreux à l'avenir. Takuba, pour l'instant, c'est très limité. On sent que tous les 27 ne jouent pas le jeu. Mais est-ce que c'est l'exemple à suivre?
Oui, je crois que c'est l'exemple à suivre à plusieurs titres. D'abord parce que ça montre là aussi les progrès réalisés dans les mentalités et dans les actes. Il y a quelques années, on le disait souvent, on avait raison, la France se trouvait trop seule au Sahel. Beaucoup de pays européens et beaucoup de pays qui sont très loin politiquement, géographiquement, dans leurs préoccupations du Sahel, ont accepté de venir avec nous, notamment dans cette force des forces spéciales, Takuba. On est à près d'une dizaine de pays européens qui ont envoyé des forces, dont l'Estonie, dont un pays comme la Roumanie qui s'engage aussi, des pays qui n'intervenaient pas dans cette région. Donc ça, c'est une Europe de la défense concrète, précise. Et puis, c'est intéressant parce que ça montre que quand on dépasse les débats un peu théoriques, est-ce que le bon terme, c'est Europe de la défense? Est-ce que c'est pilier européen de défense, autonomie stratégique? On a ces discussions, et c'est important. Mais quand on passe aux réalisations précises, concrètes, aux exemples de terrain, on arrive à avancer, on arrive à embarquer des pays qui, au départ, ne s'intéressaient pas du tout à ces menaces qui leur paraissaient lointaines. Et donc, cette menace de sécurité est vue aujourd'hui comme une menace européenne à laquelle on répond ensemble.
Je voudrais vous poser 2 questions d'actualité. La première, on vient d'en parler avec la brigade RTL. Le gouvernement a annoncé ce matin réduire de moitié les visas depuis le Maghreb. Les mauvaises langues diront que c'est un peu un coup de com' et un coup de barre à droite le jour où Marine Le Pen propose un référendum sur l'immigration et au moment où Éric Zemmour grimpe dans les sondages. Qu'est-ce que vous avez à répondre aux mauvaises langues?
Non, je réponds très clairement. On n'est pas indexé sur la déclaration, la chronique de tel ou tel candidat ou non-candidat. C'est un sujet qui se pose depuis longtemps, qui vient de la loi asile-migration. C'est un débat que le président avait ouvert à de nombreuses reprises, en parlant notamment parfois du dévoiement, on le sait, du droit d'asile ou des demandes d'asile, à partir notamment d'un certain nombre de visas étudiants. Donc ça n'est pas un sujet qui a surgi comme cela. Et avant de prendre des décisions en la matière, comme celles qui ont été annoncées ce matin, qui sont très fortes, ça aussi, ce n'est pas des mots que certains agitent dans le débat public, c'est des réponses précises. Ça vient après des actions diplomatiques. Le Premier ministre était il y a quelques mois en Tunisie. Jean-Yves Le Drian, Gérald Darmanin ont fait beaucoup de déplacements au Maghreb. On discute d'abord avant de prendre des décisions qui sont lourdes et sérieuses. Donc ça n'a pas surgi ce matin, je vous rassure.
Autre question d'actualité, Yannick Jadot, candidat écolo à la présidentielle. Bonne ou mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron?
Écoutez, moi je ne fais pas les calculs d'indexation des sondages. Là aussi, je veux simplement dire une chose, féliciter Yannick Jadot de manière républicaine. Ce n'est pas mon parti politique ou mon camp politique, mais je veux le saluer, le féliciter. Il sera dans les candidats à cette élection présidentielle. Et puis, je veux dire aussi qu'il y a quelque chose qui me réconforte ou me réjouit. Yannick Jadot, on peut ne pas être d'accord, mais a défendu une action de gouvernement, une action concrète, des propositions qui s'opposaient parfois à, je crois, des dérives ou des excès que proposaient certains dans son parti ou dans son camp. Donc de ce point de vue-là, l'idée qu'on puisse parler proposition contre proposition, je crois que c'est positif dans le débat actuel.
Un tout dernier point, Clément Beaune. Dans deux jours, les licences provisoires des pêcheurs français vont expirer pour aller chercher le poisson dans les eaux britanniques. On sent que Londres ne respecte pas tout à fait l'accord du Brexit. Nos pêcheurs menacent même d'assiéger Jersey si rien ne bouge là dans les 48 heures. Est-ce que vous prendrez des mesures de rétorsion et lesquelles ?
Alors, le soutien aux pêcheurs est complet. Je me suis rendu sur place dans les Hauts-de-France, Annick Girardin en Normandie à plusieurs reprises, la ministre de la Mer. Nous comprenons leur exaspération et nous la partageons parce que c'est insupportable de ne pas respecter un accord qui a été signé. Nous allons négocier jusqu'à la dernière heure pour reconduire un certain nombre de ces licences, pour en obtenir d'autres. Et oui, nous l'avons dit à tous les niveaux, y compris le président de la République, au Premier ministre Johnson, nous ne pouvons pas coopérer en confiance sur d'autres sujets aussi, tant que nous n'avons pas le respect de l'accord signé sur le Brexit et donc sur
la
pêche.
Quelles mesures de rétorsion ?
J'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais bien sûr, nous l'avons dit, il y a des mesures de rétorsion qui sont possibles en application de l'accord Brexit.
C'est-à-dire ?
Des mesures commerciales sur un certain nombre de produits britanniques, par exemple, en matière énergétique. On a des sujets sur lesquels, de nombreux sujets sur lesquels les Britanniques ont besoin de nous. Et il y a un accord global. S'ils ne respectent pas la partie sur la pêche, on peut prendre des mesures et nous n'hésiterons pas à le faire collectivement dans l'Union européenne.
Merci Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, d'avoir été ce soir l'invité de RTL. On va marquer une pause dans cette émission et ensuite ce sera tout autre chose. Laissez-vous tenter dernière avant-première mondiale du dernier Bond, James Bond ce soir, un Britannique. On va vous raconter à quel point le secret, la paranoïa ont entouré ce film qui est resté 2 ans dans les cartons. A tout de suite sur RTL.
RTL soir, Julien Sellier.
RTL. 18h33.
RTL Soir avec Julien Sellier.
Et si vous vous branchez à l'instant sur RTL, Marion Calais vous rappelle les grands titres de l'actualité.
51-49 et c'est donc Yannick Jadot qui l'emporte d'une courte tête face à Sandrine Rousseau dans la primaire des écologistes.
J'ai gagné, l'écologie a gagné dans cette primaire et nous sommes une grande famille qui sera rassemblée, unie pour mener cette campagne. Dès ce soir, dès maintenant, c'est place au rassemblement évidemment de l'écologie et nous allons construire un rassemblement beaucoup plus large pour gagner en 2022.
Après la hausse du prix du gaz annoncée hier, le gouvernement promet de nouvelles mesures d'ici la fin octobre. Le fournisseur Engie, de son côté, se dit prêt à accompagner ses clients en difficulté avec des étalements de paiement. Après un match nul contre Bruges, le PSG au défi ce soir sur sa pelouse face à Manchester City. Coup d'envoi à 21h à suivre en direct sur RTL.
Évidemment, merci Marion, bonne soirée. Le temps, Peggy, dites-nous tout.
Une perturbation à nouveau demain matin. Elle sera entre l'Aquitaine et le Nord-Est avec de fortes pluies. Elle va se morceler dans l'après-midi. On va la retrouver les Pyrénées à la façade Est avec surtout des nuages et des averses plus rares. Et de part et d'autre, on aura de belles éclaircies. On va en profiter, mais les températures vont baisser de 15 à 19 au nord, 18 à 21 au sud et jusqu'à 26 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr. Laissez-vous tenter. Dernière.
Allez, le petit moment de plaisir du soir. Chaque soir à cette heure-ci, laissez-vous tenter dernière avec la joyeuse bande de LVT. Et alors franchement, c'est l'événement hein, ce soir. Tapis rouge à Londres, c'est le jour J pour le 25e James Bond avant-première mondiale. Dans quelques minutes tout à l'heure au Royaume-Uni, en présence de toute l'équipe du film et Daniel Craig en tête. Bonsoir Stéphane Boutsog.
Bonsoir à tous.
Vous allez pouvoir découvrir, vous avez de la chance, Mourir peut attendre, c'est le titre de ce nouveau James Bond, à 21h tout à l'heure dans un cinéma des Champs-Élysées. Mais d'ores et déjà, ici on s'interroge, comment les producteurs ont-ils réussi à garder ce film au secret pendant près de 2 ans ? Parce qu'on l'attend ce James Bond.
Oui, c'est vrai que l'histoire qui entoure ce 25e Bond est digne d'un scénario. Mourir peut attendre devait sortir durant l'hiver 2020 avant d'être repoussé à l'automne. Mais reprise de l'épidémie de Covid oblige, il a d'abord été décalé au printemps 2021, puis finalement donc à cet automne. Le film, rendez-vous compte, est prêt depuis près de 2 ans. Et pour que rien ne fuite, Universal qu'il distribue et Barbara Broccoli, qui gère la marque James Bond, ont tout soigneusement verrouillé. Une bande-annonce finale extrêmement tardive, aucune interview d'aucun acteur en amont, quasiment pas de projection. Vous savez que chez Universal France, seules 2 personnes ont vu le film à ce jour. tout le reste de l'équipe va le découvrir ce soir.
C'est fou. C'est de la prudence ou c'est de la paranoïa ?
Oh bah c'est les deux. Hein. Sur un tel projet presque maudit depuis le début, il faut rappeler qu'on a changé de réalisateur en cours de route, que Daniel Craig s'est blessé. Eh ben, les enjeux financiers sont colossaux. Les deux derniers films de la saga Skyfall et Spectre ont rapporté près de 2 milliards de dollars. Mourir peut attendre marque les adieux définitifs de Craig au personnage. Il l'a dit, il s'y est donc investi au propre comme au figuré. Eh ben, il veut soigner sa sortie. Pour la première fois, le plateau a été interdit aux journalistes. Trois fins différentes ont été tournées sans que les acteurs ne connaissent la bonne.
Ah bon ? Ouais, ouais. C'est incroyable ça.
Le studio a laissé fuiter toutes les rumeurs. La mort de 007, l'arrivée d'un ou d'une James Bond noire. Et au final, ben on le voit, ça fonctionne. L'attente est énorme dans le monde entier. Une plateforme de streaming est allée jusqu'à proposer 600 millions pour acheter le film et le diffuser sur petit écran. Heureusement, l'offre n'a pas été retenue. Reste maintenant à tenir ses promesses. Rendez-vous donc demain matin sur RTL pour le verdict.
Oh là là, on a hâte. Ce sera entre 9h et 9h30 notamment. Laissez-vous tenter la quotidienne avec vous Stéphane et toute la bande. Je reste quand même sur cette info. Trois fins différentes tournées et les acteurs. Daniel Craig ne sait toujours pas quelle est la bonne.
Lui, il le sait. Lui, il produit en partie. Donc je pense que lui,
il est dans la confidence.
Mais personne d'autre ne savait jusqu'au montage final.
C'est absolument incroyable. On a hâte. La sortie pour le grand public, c'est quand, rappelez-nous ?
Le 6 octobre, mercredi prochain.
C'est très attendu. Merci beaucoup Stéphane.
Laissez-vous tenter. Dernière.
Et la suite, dans un instant, sur RTL, on défait le monde.
Absolument,
voilà, 007. C'est ça. Hein, 20 minutes d'actu, plus inattendu, avec Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier et Arthur Asquin. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous, les James Bond de l'info.
Voilà, on attend James Bond, on attend aussi PSG Manchester City ce soir sur RTL. C'est un peu le derby du golf, Qatar face à Abu Dhabi. D'ailleurs, tiens, qui met nos scores dans ce match diplomatique et économique ? Réponse juste après ça.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.